Nous avons invité le Nouguellois pour d'autres raisons. Il est le président d'un groupe d'initiative. Il est le président d'un groupe d'initiative qui s'appelle la Fabrique de l'Industrie. Et lorsque je lui ai demandé, un colloque sur l'industrie, notre avenir, qui se tenait à Cerisy, de venir soutenir la reconnaissance des docteurs, il m'a dit oui tout de suite et sans la moindre hésitation. Louis Gallois a dirigé Airbus et il est aujourd'hui, il a été le commissaire général à l'investissement et il est aujourd'hui le président du conseil de surveillance de PSA Peugeot Citroën. Louis Gallois, vous avez la parole.
Merci beaucoup, merci de m'avoir invité à parler de ce sujet. J'ai un petit complexe parce que j'ai entendu mes collègues à cette tribune tout à l'heure dire des choses qui étaient plutôt aimables et j'avais pas tellement prévu de commencer par des choses aimables. Je ne voudrais pas détonner. Je ne peux pas dire que j'ai été au cours de ma carrière dans des entreprises exemplaires du point de vue de l'intégration des docteurs. Je me repens et je considère qu'il y a là un sujet très important que j'avais d'ailleurs commencé à travailler chez EADS, ce qui ne s'appelait pas encore Airbus, qui se poursuit actuellement chez PSA, puisque PSA ont actuellement 377 docteurs dans ses effectifs, ce qui est une cohorte significative. J'ai même été surpris de ce nombre en le découvrant il y a peu de jours. Je ne pensais pas qu'il y en ait autant, mais cela prouve que cette entreprise a joué la carte des docteurs plus que d'autres. Je ne suis pas sûr que j'aurais pu afficher le même score chez EADS, entreprise de haute technologie, au moins dans la partie française, parce que du côté, dans la partie allemande, nous avions énormément de docteurs. Je pense qu'il est intéressant de mesurer à quel point les docteurs sont intégrés dans les entreprises allemandes et les difficultés d'intégration qu'ils peuvent rencontrer dans les entreprises françaises. Alors, quel est l'état des lieux? L'état des lieux, c'est que à peu près, alors je parle sous le contrôle de Denis Rondet, qui m'a donné cette information au début d'après-midi, 25% des nouveaux docteurs entrent dans les entreprises. C'est à peu près 3 000 sur 12 000. C'est pas mal, c'est plus que je ne le pensais, d'autant plus que 42% des nouveaux docteurs sont des étrangers et que donc ils ont plutôt tendance à rentrer dans leur propre pays, ce qui d'ailleurs me paraît tout à fait normal et bon d'ailleurs pour l'université française et pour la France que beaucoup de chercheurs viennent faire leur thèse en France. Alors les entreprises, à mon avis, j'avais marqué dans mon papier « ignore trop les docteurs ». Je modère, puisque j'ai entendu mes collègues tout à l'heure dire que c'était au centre de leurs préoccupations. Mais j'ai donc essayé de me décaler par rapport à eux. Mais clairement, ce n'est pas une filière reconnue de recrutement, sauf exception. Alors que les grandes écoles d'ingénieurs, c'est une filière reconnue de recrutement. Il y a des barèmes. Vous êtes école de catégorie A, école de catégorie B. Si vous êtes école de catégorie A, vous rentrez à tel niveau de salaire. J'ai entendu des choses assez curieuses tout à l'heure, donc je vous le précise. C'est comme ça l'entreprise que j'ai présidée. Si vous avez fait Polytechnique, vous avez un petit plus par rapport aux autres. Centrale, un mini plus, et les autres sont alignés. Voilà. Et ceux qui ont des diplômes universitaires sont décalés. Les docteurs n'existent pas à ce titre. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne bénéficient pas de rémunération qu'on a, mais ils n'existent pas dans cette en tant que filière. Il n'y a pas de véritable reconnaissance donc, du diplôme je ne sais pas si on dit un diplôme pour un docteur. On dit un diplôme pour un docteur ? Un diplôme de docteur par rapport au diplôme d'ingénieur lorsqu'il s'agit d'un docteur ingénieur. Un centralien qui fait une thèse, il rentrait, ça a peut-être changé depuis que j'en suis parti, il y a 2 ans, il rentrait chez EADS comme un centralien, 3 ans plus tard. Absolument rien. Il y a une faible appétence générale parce qu'on estime que le docteur va être trop spécialisé. Il a fait sa thèse sur un point précis de la science. On craint qu'il ne s'enferme là-dedans et on a quelques difficultés à lui proposer un profil de carrière sur la base de sa spécialité. Je note d'ailleurs qu'il n'y a pas de docteur parmi les présidents du CAC 40. Tout au moins, je n'en ai pas identifié. Je peux me tromper. Vous pouvez vérifier, peut-être que je me suis trompé, je n'en ai pas identifié. Alors que dans les entreprises allemandes, vous avez au moins la moitié des membres du DAX qui sont des docteurs. Alors, est-ce que le doctorat en Allemagne a le même niveau que le doctorat en France ? Je ne sais rien, ça c'est à vous de me le dire. Enfin, je constate cela. Les docteurs dans les entreprises sont orientés vers la recherche et développement, très massivement. Dans une entreprise comme PSA, c'est le cas. Et donc, ce sont plutôt des docteurs dans les sciences dures. Et chez PSA, qui encore une fois a pas mal de docteurs, 377, 95% sont des docteurs en sciences dures. Il y a relativement peu de doctorants en entreprise. Alors, Denis Rondet va me faire des gros yeux parce qu'il c'est le pape des chiffres. Je connais bien les chiffres, puisque ça a été créé, vous avez eu la bonté de rappeler la période 80-82, ça a été créé à cette époque, et j'étais directeur de cabinet mise en recherche. Donc je m'estime un des 30 ou 40 pairs des chiffres. Donc c'est un cas exceptionnel de paternité multiple, ce qui prouve d'ailleurs que ça a réussi. Il y a chez PSA où il y a pas mal de chiffres, sauf un petit accroc actuellement dû au fait que nous n'avons plus le droit de recevoir la moindre aide de l'État, donc nous ne pouvons pas recevoir des dossiers chiffres, tant que nous n'avons pas réglé nos problèmes de garantie apportée à la banque PSA, qui font qu'à Bruxelles nous sommes complètement bloqués sur toutes les aides, mais en moyenne nous avions 60 boursiers chiffres. Qui est nettement plus que ce que j'avais chez EADS. Donc, c'est encore une fois une performance très convenable pour une entreprise. Il y en a 300 chez BMW, il y en a près de 500 chez Volkswagen. Donc, on voit les rapports de force. Alors, Volkswagen est plus gros que PSA, mais pas dans cette proportion. Alors, je me suis posé la question, après cet état des lieux qui n'est pas quand même formidable, pas nul. Un quart rentre dans les entreprises et peut-être plus si on compte les Français. Mais ce n'est pas extraordinairement porteur comme ça peut l'être dans un pays comme l'Allemagne. Alors je me suis demandé si les entreprises avaient ou non besoin de docteurs. Je crois que oui. Je crois que les entreprises ont un besoin de docteurs. D'abord parce que nous sommes dans une transition technologique majeure dans les entreprises et que le poids de la technologie devient extrêmement important dans les entreprises et qui dit technologie dit amont scientifique. Je ne suis pas de ceux qui pensent que les grandes entreprises ne font pas de recherche fondamentale. Certaines grandes entreprises font de la recherche fondamentale. Et en tout cas, nous avons besoin d'un amont scientifique pour assumer cette complexité technologique que nous avons à gérer. Et Thierry Veil me proposait quelque chose qui me paraissait assez commode. Il disait, il y a le modèle anglo-saxon, où on met à la tête comme dirigeants d'entreprise des financiers, parce qu'il s'agit de mettre l'actionnariat et la valeur d'actionnariat en tête. Le modèle français était plutôt fondé sur la capacité à faire face à l'administration et aux politiques, donc on mettait des énards à la tête des entreprises, j'en suis l'archétype absolu, même si j'ai essayé de m'évader de ma condition. Toujours très difficile de s'évader de ta condition. Enfin, on essaye. Et je pense qu'il y a un modèle rhénan, qui est celui de l'Allemagne, où on a toujours mis la technique en avant. Et je pense que ce n'est pas un hasard s'il y a autant de docteurs dans les fonctions de management supérieur, de direction des entreprises. Le docteur, c'est celui qui est capable d'apporter une réponse à une question nouvelle sans que le résultat de la démarche puisse être connu à l'avance. C'est quelque chose auquel sont confrontées les entreprises. Et ce n'est pas le métier des ingénieurs. Et je pense que si nous avons un problème de créativité dans les grandes entreprises, c'est peut-être parce que nous n'avons pas eu assez de chercheurs. Et je constate en revanche que lorsque les chercheurs créent leur propre entreprise, ils développent une créativité que nous avons beaucoup de difficultés à intégrer dans les grandes entreprises. Je pense que les chercheurs ont aussi une capacité à humer les vents nouveaux de la technologie, à sentir quels sont les signaux faibles d'évolution de la technologie. D'abord parce qu'ils sont constamment en alerte sur ce qui se fait. Ils participent à des congrès, ils voient leurs collègues, ils sont informés de ce qui se passe dans le monde entier sur le front technologique. Donc ils sont capables de discerner à l'avance des évolutions qui seront utiles pour les entreprises. Et puis, bien sûr, ils ont une capacité à défendre leur thèse face à leurs pairs. Et je pense que c'est une discipline extrêmement salutaire, auquel sont peut-être pas assez habitués les cadres dans les entreprises qui ont tendance à considérer qu'à partir du moment où le chef a dit que c'était pas bon, c'est que ça ne va pas être bon. Alors que je pense qu'il faut être capable de résister et de challenger, y compris ses chefs. Plus globalement, ça, c'est une conviction ancienne. Je crois à la formation par la recherche. Je pense que la formation par la recherche, elle apporte une confrontation au réel et à sa complexité et sans faux fuyant. Alors que ma formation à moi, qui est celle que j'ai fait ENA et HEC, c'est une formation qui vise à répondre à côté aux questions qu'on ne nous pose pas. Mais c'est utile aussi. C'est également utile, mais je pense qu'il faut les deux. Je caricature, évidemment, avec un peu de démagogie devant un auditoire de personnes, évidemment, d'un niveau scientifique supérieur au mien. Je pense que le docteur, il a de la rigueur, il a de la méthode, parce que c'est le travail scientifique. Et c'est... je pense, une école extrêmement fructueuse, une école aussi de persévérance, une école de doute, qu'on doute. Et tout cela manquerait aux entreprises si elles n'étaient pas en mesure d'en bénéficier. Alors que faire pour que les docteurs se sentent bien dans les entreprises ? Ben, je crois qu'il va falloir une vraie politique volontariste de la part des entreprises. Ça ne peut pas résulter... d'une évolution douce technique. C'est un peu comme... je prends un parallèle que je retirerai à peine, aurais-je prononcé, mais si on ne fait rien sur la parité homme-femme, il n'y a aucune chance que les femmes montent dans les entreprises. Il faut du volontarisme. Et pour les chercheurs, je pense qu'il va falloir la même chose. Non pas que j'assimile les choses, c'est pas la théorie du genre pour les docteurs, mais je crois qu'il est extrêmement important qu'il y ait une politique volontariste. il faut que les doctorats soient reconnus en début de carrière. J'écoutais tout à l'heure ce qui était dit sur le fait que dans l'entretien individuel initial, les docteurs devaient défendre leur bistec pour essayer de le valoriser. Très bien, ça, évidemment qu'il faut le faire. Mais pour les ingénieurs, ce n'est pas le cas. Ils arrivent avec leur diplôme. Je suis centralien, donc je rentre à tel niveau. Je pense qu'il va falloir reconnaître ce que représente le doctorat par rapport aux autres formations. Je ne dis pas qu'il faut le mettre au-dessus d'une formation d'ingénieur. Mais un ingénieur qui fait un doctorat, qui passe 3 ans de plus à faire un doctorat, qui acquiert cette expérience de la formation par la recherche, elle doit être reconnue dans l'entreprise. Sinon, on n'y arrivera pas. Si c'est 3 ans de perdu en termes de carrière, je pense qu'il y a là, on court à l'échec. Je pense que il faut être prêt à embaucher des chercheurs hors de leur sujet de thèse et même peut-être hors de leur discipline le plus strictement entendue. Nous avions chez EADS un programme leadership, on embauchait des jeunes sans poste affecté. On ne les embauchait pas sur un poste, on les embauchait dans un groupe qu'on appelait un groupe de leadership et ce n'était que 2 ans après, on les faisait circuler dans l'entreprise, ce n'était que 2 ans après qu'ils avaient leur affectation définitive. Tout cela pour essayer de diversifier un peu les recrutements, ne pas avoir toujours les mêmes accédant au même poste. Je ne pense pas qu'on ait mis des docteurs dans ces groupes de leadership. Or, je pense qu'il faudrait embaucher des docteurs également, pas uniquement sur la discipline, mais également pour en faire les cadres supérieurs de l'entreprise de demain. Je pense que c'est très important. Il faut gérer leur carrière aussi. Il y a des docteurs qui rentrent dans une entreprise pour travailler sur une discipline et qui veulent continuer à travailler dans ces disciplines. Il faut qu'ils puissent gravir les échelons. Nous avons chez PSA des experts et des maîtres experts. Et le maître expert, il monte haut dans la hiérarchie, mais il reste dans son expertise. Donc en termes de rémunération, il est valorisé. En termes de cadre dirigeant, il est valorisé comme tel, même s'il a 10 personnes sous ses ordres et s'il reste un spécialiste de la thermodynamique ou d'une autre discipline précise, utile à l'industrie automobile. Ça, c'est une première évolution. Mais on doit également permettre à ces chercheurs de partir dans d'autres directions et d'accéder à des fonctions qui, après qu'ils aient rendu service quelques années, peut-être en bureau d'études, puissent les amener à faire autre chose. Ça suppose qu'il y ait des profils de carrière qui soient dessinés pour eux. On le fait pour les ingénieurs. Quand on embauche un ingénieur, on va préparer son parcours de telle manière qu'il acquiert de l'expérience, de la compétence qui lui permettra ensuite d'exercer des fonctions hors de sa spécialité scientifique. Parce qu'un ingénieur, c'est quand même, on le recrute d'abord pour ses capacités techniques et scientifiques. Donc je pense que c'est très important qu'on puisse définir des profils de carrière pour les docteurs comme on le fait pour les autres disciplines. Je m'engage sur un terrain un peu plus glissant. Je pense que si on veut aussi faciliter cette insertion, il faut peut-être proposer des thèses sur des sujets qui sont qui facilitent l'interface entre la science et l'entreprise. Il y en a beaucoup. C'est ce qu'on appelle la recherche technologique, largement entendu. Je pense qu'il y a des thèses qui, sur ces sujets qui peuvent être proposées. C'est d'ailleurs ce qui se passe assez largement avec les bourses CIFRE. Mais ça peut être une politique plus assumée. Et je voudrais terminer en disant que ceci pose la question plus large des relations entre les universités et les entreprises. Moi, j'ai connu la période où les universités et les entreprises s'ignoraient royalement. Les universités considéraient que le monde des entreprises, c'était le profit loin de la science, une sorte de perversion, peut-être nécessaire, mais dans lequel il ne faisait pas bon faire carrière, et les chefs d'entreprise n'embauchaient pas les universitaires parce qu'ils estimaient qu'ils étaient absolument pas préparés à la vie active dans l'entreprise. Ceci a énormément bougé. On n'en est plus là. Je ne peux pas dire qu'on ait fait tout le chemin qu'ont fait les Allemands, qui n'ont pas des grandes écoles, donc ils sont bien obligés de se fournir dans le vivier des universités. Mais on a fait beaucoup de progrès, et je pense que c'est là qu'il faut continuer à travailler. Il y a les chaires, il y a le financement des labos, il y a les contrats de recherche, il y a les stratégies d'embauche, qui doivent également rechercher non seulement des docteurs, mais aussi des masters, des gens qui aient des compétences, qui aient acquis dans les universités des compétences utiles pour les entreprises, et il y en a beaucoup, et de mieux en mieux. Et je pense que à ce moment-là, les docteurs peuvent devenir une passerelle essentielle entre le monde des universités et le monde des entreprises. Et donc là, ils deviennent à nouveau utiles sur ce plan-là. Ils peuvent aider ces deux mondes qui ont besoin l'un de l'autre à se rapprocher. Merci.
Je remercie vivement Miguel Watt. Je sais qu'il a un emploi du temps très serré.
Un tout petit peu moins serré.
Voulez-vous répondre à des questions ou on passe directement la parole à Pierre-Paul Zoliot ?
Je pense que ce serait pas mal que vous parliez, qu'on ait des questions.
Ok,
et parfait. Et on va de Denis terminer.
Bon, alors Pierre-Paul Zoliot est sociologue. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, et il est le président de l'école normale supérieure de Cachan, dont la devise actuelle est « Sciences pratiques ».
Merci. Il y a une habitude chez les professeurs d'université, quand ils arrivent à être à une heure aussi tardive, c'est de dire que beaucoup de choses y ont été dites. C'est ce qui généralement conclut les jurys de thèse. C'est tout à fait vrai pour ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est encore plus vrai en parlant après vous. J'avais le sentiment, en me trouvant dans cet amphithéâtre, de me dire qu'on était à un moment clé. Non, probablement, et ça c'est en vous écoutant, M. Gallois, probablement à un moment clé du point de vue des entreprises, du point de vue de l'usage qu'elles peuvent souhaiter faire des docteurs, mais évidemment aussi du côté de l'enseignement supérieur et de la recherche, et je pense qu'on est assez nombreux ici à avoir à l'esprit tous les changements. Je ne parle pas seulement de l'arrêté doctoral, mais plus largement les changements d'enseignement supérieur. Je pense qu'un amphi comme celui-là, et la tonalité qu'il a eue, n'aurait pas pu se tenir il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, où il se serait tenu de manière très différente. Il y a eu une seule personne aujourd'hui qui a évoqué ce qui aurait été probablement le leitmotiv d'un amphithéâtre il y a une quinzaine d'années, c'était la formation doctorale et l'employabilité. Voilà, il y a un représentant de la Commission européenne qui a eu ce propos, mais à part ça, pour l'essentiel, cette rhétorique-là, on ne l'a pas retrouvée. Alors, pour ma part, c'est une rhétorique pour laquelle j'aurais tendance à dire, de manière en retournant totalement l'argument, de dire que ce décalage du doctorant, il a été, dans les discussions qu'on a pu avoir, plutôt valorisé comme étant, en quelque sorte, un facteur décisif de l'innovation. Ça a été dit tout à l'heure. Donc, au fond, la question de l'adaptation du doctorant au marché, du docteur au marché, n'a pas du tout été posée dans ces termes-là, dans notre amphithéâtre, mais au contraire, d'une manière presque inversée. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est de mesurer le chemin qui a été parcouru. Alors, mesurer le chemin qui a été parcouru. Moi, je suis sociologue. Alors, j'ai lu des sociologues du patronat, figurez-vous, et puis des entrepreneurs. Alors, c'est vrai que dans ma jeunesse, j'ai lu le patronat, qui est un papier de Pierre Bourdieu de 78, et puis les travaux de l'historien Louis Le Boyer. Bon, il n'y avait pas beaucoup de docteurs, quoi. Et si il n'y a pas beaucoup de docteurs, même dans les variables de l'analyse factorielle de correspondance, le doctorat, c'était pas une variable pertinente. Et j'ai regardé dans les données plus récentes, puisqu'on a reconduit ces enquêtes récemment, et ben, il n'y a toujours pas de docteur. Voilà. Donc, ça va un peu dans ce que vous disiez. On a quand même, là, on voit un peu un tableau en demi-teinte, à la fois des attentes et des questions, et en même temps un état de la situation qui est encore un peu ambigu, avec en même temps un développement des études doctorales qui est quand même extraordinaire. Bon, je suis désolé, je fais un petit peu des allers-retours. De temps en temps, c'est oui, de temps en temps, c'est non. Moi, quand j'ai commencé ma thèse, on nous parlait de la possibilité d'avoir un jour 8 ou 9 000 docteurs en France. On a dit qu'on est, on doit être à 12-13 000 aujourd'hui, et sur ces 12-13 000, il y en a effectivement plus de 3 000, peut-être plutôt 5 000 d'ailleurs, ça dépend comment on compte, qui sont dans le secteur privé. Il y a des chiffres. Moi, je suis sociologue, j'ai dirigé deux chiffres, et j'ai deux personnes qui sont, enfin deux de mes docteurs qui sont dans des entreprises, enfin dans des services de recherche du secteur privé, enfin, ou dans des EPIC, enfin, en tout cas pas au sens. Voilà. Donc ça, c'est un point qui me paraît extrêmement positif. On nous a dit tout à l'heure qu'il y avait 85% de docteurs chez Saint-Gobain R&D. Je pense qu'on peut dire la même chose de certains secteurs. L'aéronautique, vous en avez parlé, mais c'est quelque chose qui me paraît important à souligner. Alors, il y a une opposition sur laquelle tout ça s'est fondé. C'est l'opposition université-grandes écoles. L'opposition université-grandes écoles, c'est une opposition sélective-non sélective. Donc je pense que ce sur quoi il faut sans doute qu'on travaille, c'est quand même d'appuyer le fait que le doctorat est une formation extrêmement sélective. C'est extrêmement difficile, enfin, c'est extrêmement difficile parce que c'est extrêmement sélectif. Le deuxième point qui me paraît nécessaire à souligner, c'est que sans doute il ne faut pas enfermer le débat dans une relation docteur-grandes entreprises. Il y a toute la question de la place des docteurs dans des tissus de PME, dans des écosystèmes territoriaux, et là, il est peut-être possible que la logique de regroupement par site, quand elle fait place à un dialogue entre universités, grandes écoles, organismes et entreprises, puisse être un moyen de travailler sur cette dimension. Et puis, il ne faut pas sous-estimer dans ce débat que c'est un débat qui doit rester dynamique, c'est-à-dire que la flexibilité des attentes que pourrait adresser l'entreprise aux futurs doctorants va avoir un effet sur la capacité pour la thèse d'être attractive. C'est-à-dire que ça va constituer une motivation, ça va amener des populations de doctorants avec des attentes, avec des façons d'aborder l'exercice d'insertion professionnelle par la thèse, qui auront aussi un effet au temps suivant. Alors, il y a une chose aussi que je voulais souligner, c'était l'importance des représentations croisées qu'avaient l'université, l'entreprise, les doctorants et les employeurs sur ce qu'est un doctorant. Il y a des enquêtes qui ont été faites là-dessus, par l'APEC, il y a toute une série de... On a quelques données, elles sont intéressantes à regarder. On reconnaît aux doctorants une capacité d'expertise scientifique, une capacité d'engagement, une capacité à gérer des projets, une capacité à les gérer de manière autonome, une capacité à... Et il y a dans ces facteurs-là des choses qui sont bien comprises par les entreprises, l'expertise scientifique, l'intégrité et l'autonomie. Il y a probablement sur la question de la gestion du projet, de l'engagement et des compétences spécifiques à ce qu'on pourrait appeler des late bloomers, finalement le doctorant par rapport à un ingénieur qui, à 20 ans, se voit reconnu en fonction de sa réussite à un concours post-taupe. Il me semble que le docteur est quelqu'un qui, au fond, fait montre d'une maturation de ses qualités plus tardives. Et là, il y a véritablement, pour les entreprises, probablement à le comprendre, mais aussi de la part des doctorants à l'anticiper. D'autant plus, mais ça a été dit, que ce qui fait la force d'un docteur, c'est la capacité à ouvrir des espaces de connaissances nouveaux et à se situer dans des perspectives de long terme, ce qui est, même si c'est une difficulté parfois pour les entreprises de se positionner sur certains secteurs à long terme, c'est aussi une erreur de croire qu'elles ne le font pas. Voilà. Alors il y a un certain nombre dans ces caractéristiques et ces représentations, il y a des injonctions paradoxales qu'on relève souvent. Le docteur doit partager ses recherches s'il est en entreprise alors qu'on lui a appris à les protéger. Il doit entretenir un niveau scientifique de très haut niveau et s'y concentrer alors qu'on lui demande en même temps d'être un manager. Il doit être concentré sur un projet mais en même temps on lui demande d'être ouvert sur le monde. Il doit être déterminé à atteindre ses résultats, c'est ça qu'on attend d'un docteur, et en même temps il doit être capable à tout moment de savoir renoncer. Alors être au cœur de ces injonctions contradictoires, c'est pas le monopole du doctorant et du docteur. Moi, j'ai relu ce qu'écrit Schumpeter sur l'entrepreneur, c'est exactement ça. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit partager et protéger, c'est quelqu'un qui doit... Voilà. Donc, on retrouve, à mon avis, là, une analogie qui pourrait être intéressante à creuser. Voilà, en conclusion, je voulais souligner quatre points. Le premier, c'est l'importance du moment où on se trouve en ce moment. Ce débat le prouve. Et en même temps, ce moment nous permet de mesurer qu'il va falloir sans doute pousser l'accélérateur. Alors, pousser l'accélérateur dans quel... D'abord parce qu'il y a une nécessité pour l'économie française d'innovation de rupture, de perspective de long terme, d'internationalisation aussi. Parce qu'il y a un gisement, et pas seulement dans le secteur sciences appliquées, ingénierie, pas seulement dans la R&D, c'est vrai dans les SHS. Moi, je suis du domaine SHS, donc évidemment, j'ai envie de porter cette parole. Mais ça a été dit et par plusieurs intervenants. Et puis, des choses doivent avancer. Il faut des initiatives. Il faut une poussée sans doute politique du côté de l'État. Donc, je voudrais quand même souligner... Enfin, il faut que ce soit... Ça a été dit par un certain nombre d'entre nous, mais il faut absolument que l'État prenne le taureau par les cornes sur l'ouverture de l'accès au corps. On ne peut pas se contenter d'une situation d'attente. Là, je crois qu'il faut qu'il y ait vraiment, vraiment une avancée plus grande. Voilà. Et puis, moi, je suis à la tête d'une école un peu particulière, une école normale supérieure. C'est un peu une grande école de culture universitaire. Alors, 80% de mes élèves font des thèses. Et je considère, au fond, qu'on est un peu entre ces mondes qui sont si difficiles à mélanger, qui sont les grandes écoles et les universités. Donc, j'ai beaucoup entendu tout à l'heure des propos et sur le docteur ingénieur, l'ingénieur qui devient docteur. Je pense que dans le cadre des regroupements, notamment, où un certain nombre d'universités, d'écoles d'ingénieurs et d'organismes travaillent ensemble à la politique des collèges doctoraux, il ne faut pas croire que cette fenêtre qui s'ouvre doit faire relâcher l'effort du côté des universités et du côté des établissements à culture universitaire. Parce que rien ne serait plus dommageable, d'une certaine manière, pas plus dommageable pour sous les gagnants. Les gagnants, ça serait les écoles d'ingénieurs, vous m'avez compris, parce qu'à ce moment-là... Le fait que, je vais vous parler en sociologue, vous voyez, le fait que les classes dominantes, à capital économique, soient capables d'avoir une thèse, ça, je vous le garantis. Tant qu'ils n'en ont pas besoin, ils ne la passeront pas, mais le jour où ils découvriront qu'ils en ont vraiment besoin pour devenir les homologues de leurs collègues de General Motors ou de qui vous voulez, ils la passeront, et brillamment même en plus. Donc là, je pense qu'il faut, il y a un point d'attention que je voudrais souligner. Voilà.
Et comme dirait Orson Welles, voici le troisième homme.
Le troisième, c'est ma thèse en 180 secondes. Hein, c'est ça. Et si la NRT a concouru à l'organisation de ce colloque, nous avons deux motifs. D'abord, ça ne vous a pas échappé qu'on est chargé, c'est une charge que nous aimons beaucoup, de développer les chiffres. La deuxième, c'est que notre association en a comme raison d'être que de faire le lien entre acteurs privés et publics de la recherche. Or, si vous regardez les gens qui, dans les entreprises, ont fait un passage dans la recherche publique, et si vous oubliez des gens très remarquables, mais qui ne se comptent que par dizaines, du genre Didier Roux, les seuls, ce sont les docteurs. Ça, il faut quand même l'avoir en tête. Ils ne sont pas tous des chiffres, hein, bien entendu. Mais ce sont les docteurs qui ont ce rôle de passeurs, qui connaissent les deux mondes. Et c'est vrai, et moi je vais simplement, en évitant les transparents qui prendraient trop de temps, essayer de tirer de cette expérience chiffre qui dure quand même depuis 1981, sans changement de règles, ce qui est tout à fait remarquable en France, qu'un machin qui fonctionne bien, on résiste au plaisir de changer les règles en cours de route. Et le progrès qui a été fait, il a été constant, mais c'est un progrès dans les relations qui s'établissent dans ce système entre les entreprises, les doctorants, les laboratoires. Et 34 ans d'expérience, on peut quand même en tirer quelques constats, en commençant par une remarque, c'est qu'une thèse chiffre, c'est une thèse tout court. C'est une thèse qui correspond à tous les critères académiques. Et on y trouve, comme l'a dit Louis Gallois, tous les sujets. Dans les listes de chiffres, il y a des sujets dont on se dit, oh, ça c'est vraiment du fondamental. Bon, la seule chose, c'est qu'une entreprise a dit, ça m'intéresse. Vous connaissez la seule particularité des chiffres, c'est que le doctorant est employé par une entreprise. Bon, d'accord. Bon, ça induit quand même un certain nombre de conséquences, qui sont d'ailleurs plutôt favorables. Mais encore une fois, du point de vue de la qualification de la thèse, il n'y a pas de différence. C'est pour ça qu'on peut en tirer quelques remarques, quelques repères utiles pour tout le monde. J'en ai trois. L'ouverture, la qualité la responsabilité. Bon, l'ouverture, on en a parlé beaucoup. On peut y associer le qualificatif d'innovation ouverte. Comme toujours, il y a eu l'innovation ouverte avant qu'on invente le vocable. Mais c'est vrai que c'est une tendance lourde et c'est vrai que les chiffres, bon, sont ouverts par définition, mais que le doctorat est en effet un exercice ouvert et où la relation avec les entreprises peut apporter beaucoup. Alors, on a évidemment débattu ici du dilemme, vous l'avez rappelé, on est toujours au centre d'un certain nombre de contradictions, c'est la vie. Alors, spécialisation d'un côté et puis polyvalence de l'autre. On n'y coupe pas. Là, je me permettrai quand même une remarque. C'est qu'il y a beaucoup de qualités qu'on obtient quand on fait bien sa mission principale. Et la mission principale d'un doctorant, c'est quand même de bien faire sa thèse. Et c'est en faisant bien sa thèse qu'il développe le mieux toutes les qualités dont on a fait la liste tout à l'heure et qu'on trouve dans MyDocPro et des choses comme ça. Ça n'exclut pas du tout les formations complémentaires, ça n'exclut pas du tout qu'on ait un regard, mais justement, si on fait bien sa thèse, il va y avoir du réseau, de l'ouverture extérieure, etc. Donc, en tout cas, petite note au passage, pas une recommandation, je ne me permettrai pas de vous en faire, plutôt une observation expérimentale. Je crois qu'en faisant bien sa thèse, on obtient déjà beaucoup de choses. Alors, l'affaire bien, c'est la question de la qualité. Et la question de la qualité, elle est centrale dans l'avenir professionnel des docteurs publics et privés, et quitte à ne pas faire plaisir à tout le monde, je dirais expérimentalement, nous, dans les chiffres, nous permettons d'éliminer 15% à peu près de dossiers qui ont été acceptés par les écoles doctorales et qui ont déjà été vus quand même par l'entreprise et par l'école doctorale. Pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas pour sélectionner ? C'est pas la question. C'est parce qu'il y a des défauts dans 15%. Et le défaut le plus fréquent, c'est l'insuffisance de niveau du doctorat. Car si on dit que le doctorat, c'est un sport de très haut niveau, il ne faut peut-être pas y envoyer tout le monde non plus. Alors, il y a aussi une observation expérimentale, c'est que les doctorants, ça représente une très grande partie de la force de travail de la recherche publique. Ça fait partie encore des contradictions qu'il faut gérer. Mais le combat pour la qualité est essentiel. En tout cas, nous mettons les chiffres sous ce signe-là. Évident que le référentiel de compétences, ce qu'on a dit de la formation des encadrants, de l'homologation ou de la concordance des référentiels européens, nationaux, tout ça, ça va dans ce sens. Et la dernière chose, la responsabilité, je crois que la thèse, le doctorat est une école de responsabilité à plusieurs niveaux. Le premier, c'est celui du doctorant lui-même. Il est responsable, il a passé 3 années sur un sujet, dans un laboratoire. Bon, bien entendu, il n'a pas au départ tous les éléments d'appréciation, on écrit mieux l'histoire après. Donc, il y a évidemment une responsabilité éminente de ceux qui l'aident à trouver son sujet, de ceux qui vont l'encadrer, de ceux qui vont le suivre. Le suivi étant d'ailleurs une composante très importante de la qualité. Dans cette affaire-là, les écoles doctorales qui sont ici réunies ont une responsabilité majeure. Nous en avons une toute petite, nous à NRT, pour faire en sorte que les chiffres fonctionnent bien. Et le ministère en a. Nous pouvons le remercier de son soutien, de l'évolution quand même qui a été constatée. C'est vrai qu'il y a 10 ans, et maintenant, c'est pas pareil. Et reconnaissons que les gouvernements successifs ils sont pour quelque chose. Une toute petite suggestion, si le ministère était un petit peu plus pourvoyeur de données, ou parce qu'avoir des données sur le doctorat, c'est vraiment un sport difficile. Et pourtant, ça n'empêche pas de parler, mais c'est quand même mieux quand on le fait à partir de constats. Merci beaucoup de votre attention. Moi, j'ai été très heureux de cette journée.
Avant de clore cette première journée, je demande simplement si l'une ou l'autre d'entre vous a des questions à poser à l'un de nos 3 intervenants. Si, il y a une question. Une question, il n'y en aura pas d'autres à ce moment-là. Merci.
Merci par les textes, c'est le président de la loi. Vous avez un partenaire chinois en fait avec PSA. Comment voyez-vous le développement de la R&D comme PSA avec des places finalement de l'État chinois?
Eh bien, nous avons, je pars d'ailleurs en Chine à l'occasion du Salon de Shanghai, je visiterai le centre de recherche et développement que nous avons à Shanghai. Nous développons un centre de recherche et développement à Shanghai. Et alors tout le monde nous dit, mais alors vous êtes en train de filer votre magnifique technologie aux Chinois. Les Chinois ne nous ont pas attendu pour accéder à un haut niveau de technologie. Je n'ai pas besoin de vous rappeler leurs exploits dans le domaine scientifique et technique. Et d'autre part, nous constatons que ce centre de recherche, notamment dans le domaine des logiciels, grâce aux Chinois qui travaillent dans ce centre de recherche, est en avance par rapport à tous les autres centres de recherche du groupe PSA. Et qu'il est possible que dans l'avenir, ça soit notre centre mondial pour l'élaboration des logiciels dont nous avons besoin. Et vous savez que la voiture va être l'objet le plus connecté après le téléphone portable. Donc c'est un enjeu essentiel pour nous. Eh bien, si ça continue comme c'est parti, il est bien possible que nous trouvions à Shanghai des ressources remarquables pour développer nos logiciels. Et que donc nous fassions à partir de Chine. Mais il ne faut pas penser que c'est à sens unique. La science chinoise est pour nous un sujet qui nous intéresse. Nous souhaitons pouvoir également y accéder à travers ce centre de recherche. Nous y faisons nos propres apports, mais ce n'est pas, encore une fois, une one-way street. C'est, je pense, quelque chose qu'il faut que je répète, parce que j'avais déjà eu ce type de débat sur l'aéronautique et je le retrouve sur l'automobile. Nous avons une sorte d'assurance à considérer que notre science est supérieure à celle de tout le monde, exception des Américains, qui fait que nous avons toujours l'impression d'être la fontaine qui déverse ses technologies sur le reste du monde. C'est terminé. En tout cas, pour la Chine.
Merci beaucoup. Nous nous retrouvons demain à 9h.